Le mur de Claire Favant. Le Havana Bay fend les flots. Comme d'habitude, le capitaine négocie au mieux la trajectoire du navire pour casser les vagues et limiter au minimum le tangage et le roulis. Accoudé au bastingage, Jérémy lève brièvement les yeux vers la passerelle, près de 30 mètres au-dessus de lui, avant de reprendre ses jumelles pour observer la vaste étendue liquide qui s'étale à perte de vue autour d'eux. Soudain, il repère ce qu'il cherchait. Il active sa radio. « Capitaine, on a des déchets à 3 heures. »«
Continent ou plaque ?» crachote la voix en retour.
« Plaque !»«
Merci, Jérémy. Je te laisse surveiller notre approche. Dis-moi quand nous serons au plus près. »«
À vos ordres, capitaine. »
Le capitaine négocie leur arrêt en douceur. Immédiatement, les pêcheurs qui ont senti le ralentissement arrivent en suivant les câbles en fer avant de lancer des filets par-dessus bord. Contre toute attente, le capitaine a décidé de descendre de la passerelle pour assister à la manœuvre. Il reste silencieux, mais ne quitte pas Jérémy des yeux. Celui-ci remplace au pied levé le 40% qui d'habitude commande le groupe, mais est tombé malade. Le jeune homme ne se laisse pas impressionner par cette charge inattendue.
« Drift, lance-le plus à gauche !» dit-il pour guider un garçon qui s'exécute avec entrain.
Quand Drift tire sur son filet, il remonte plusieurs kilos de matière plastique, de vieilles bouteilles, des sacs et des bidons.
« Parfait !» le félicite Jérémy.
« Recommence au même endroit. Il y en a encore de quoi remplir ton filet 2 ou 3 fois. »
Drift hoche la tête à son attention.
« Merci, monsieur. »
Jérémy longe les rangs des pêcheurs et leur prodigue des conseils pour qu'ils optimisent leur jetée avant de revenir vers la toute dernière recrue.
Drift est un 8%. Il fait partie des plus chanceux, ceux qui voient encore un tout petit peu. Avec ce pourcentage, Jérémy imagine qu'il doit percevoir un simple couloir de lumière au milieu de sa nuit éternelle, mais c'est déjà beaucoup, beaucoup plus que la plupart des personnes à bord. Jérémy, qui est à 55%, n'a jamais eu à vivre dans le noir, avec pour seul repère les câbles tendus en travers des coursives et du pont qu'on leur apprend à reconnaître et à suivre presque dès leur naissance. Sa vision, à lui, est centrale. Il ne discerne pas ce qui se passe sur les côtés. Cet avantage a pourtant fait de lui un privilégié dans le monde d'après.
« Tu peux te décaler sur la gauche maintenant, » propose-t-il au jeune garçon.
« Parfait !» Il y a toujours eu des phases, bien sûr, mais en l'espace de 100 ans, l'activité humaine a provoqué une espèce d'emballement. En 2030, plus rien ne pouvait enrayer le cycle enclenché. Depuis longtemps, les glaces des pôles avaient commencé à fondre. L'eau douce a envahi les océans dans de telles quantités que cela a perturbé le Gulf Stream jusqu'à le faire disparaître. Le climat tempéré qui existait en Europe et en Amérique est devenu plus aléatoire. Le changement de salinité et de température des océans a mis à mal toute la chaîne alimentaire sous-marine, à commencer par le plancton. À ce moment, c'était le moindre souci de l'humanité, car le niveau de l'eau avait commencé à monter jusqu'à atteindre plusieurs dizaines de mètres, défiant toutes les prévisions les plus alarmistes et a rendu de nombreuses zones inhabitables. Les réfugiés climatiques se sont comptés par millions. Des guerres ont éclaté sur tout le globe pour déterminer qui posséderait les terres encore disponibles, les ressources agricoles restantes et les femelles. Car l'homme est ainsi fait. Confronté à la menace de sa propre extinction, il garde toujours à l'esprit la notion de pouvoir et de profit. Durant ces conflits, la population mondiale a drastiquement chuté, passant à 2 milliards d'individus en l'espace d'une vingtaine d'années à peine. C'est à peu près à la même époque que la fonte du permafrost a libéré les plus grosses réserves de mercure de la planète dans l'eau et dans l'air. À partir de ce moment-là, les poches de survivants ont été décimées par les empoisonnements. Le métal a rongé leur système nerveux, digestif et immunitaire, ainsi que leurs poumons et leurs reins. Quelques rares personnes ont eu la chance de développer une immunité partielle et ont seulement subi un des effets de la maladie de Minamata, une réduction drastique de leur champ visuel. Ceux qui voyaient encore ont pris le pouvoir et d'autres purges ont lieu. Quand la situation s'est stabilisée, l'humanité ne comptait plus que quelques centaines de milliers d'individus, toujours confrontés aux mêmes problèmes de territoire et de ressources, puisque tout l'environnement terrestre était contaminé au dernier degré par le mercure. Les plus entreprenants ont embarqué sur des navires pour fuir par les mers. C'est ainsi que les parents de Jérémie se sont retrouvés sur le Havana Bay, un porte-conteneur de 215 mètres de long, près de 30 ans plus tôt. Jérémie, surveille la pyrolyse.
Oui, capitaine. Avec les pêcheurs, Jérémie charge des dizaines de kilos de plastique sur ses épaules. Il passe en tête, les laissant se guider grâce au câble en cordage bleu synthétique qui les mène tous vers les entrailles du navire, là où se trouvent les immenses pyrolyses. Sarina, la 35% qui commande ici, supervise le tri des déchets qu'ils entassent une fois par jour dans les quatre réacteurs. Jérémie s'occupe de l'expulsion de tout l'oxygène des cuves afin d'éviter une explosion.
« C'est bon, vous pouvez lancer la chauffe » annonce-t-il dès qu'il a terminé l'opération.
Sarina procède à l'allumage des brûleurs. Des 400 degrés Celsius, les molécules du plastique se transforment en gaz. Celui-ci s'échappe par des tuyaux reliés à deux autres cuves non chauffées. Avec la température qui diminue, le gaz se condense. Le premier récipient permet de récupérer du gasoil pour alimenter le navire et le second, dont la température est encore plus basse, de l'essence qu'ils utilisent pour se chauffer. Les gaz non condensés après cette seconde cuve sont renvoyés vers les brûleurs sous les réacteurs. Ce circuit fermé ne dégage aucune vapeur toxique dans les cales. Grâce à ce procédé low-tech et aux 18 tonnes de plastique que les humains d'avant déversaient chaque minute dans les océans, le Havana Bay, avec sa consommation quotidienne de plus de 250 tonnes de gasoil, dispose de l'énergie nécessaire pour ses déplacements depuis près de 30 ans. Jérémie remonte vers la passerelle.
Alors ? Demande le capitaine sans même le regarder quand il entre dans le poste de pilotage.
C'était une bonne récolte. Les pêcheurs ont pris environ 350 tonnes de déchets et on a récupéré 280 tonnes de carburant.
Bien, tu fais de l'excellent travail, comme toujours.
Le capitaine a un peu plus de 40 ans. Il a connu l'avant, ce qui fait de lui le plus vieux survivant présent à bord. Son prestige vient aussi du fait qu'il est à 80%. Nul ne peut rivaliser avec lui, puisque la chaîne de commandement repose sur le champ visuel. La plupart des responsables se situent entre 45 et 25. Les inférieurs sont des exécutants.
Ah, les 0% sont affectés aux tâches les plus ingrates du navire. Le nettoyage des différentes cuves, la confection des vêtements, le recyclage des déchets, la perpétuation du savoir par la transmission orale.
Merci, capitaine. L'homme frotte sa barbe en l'observant longuement. Tu as à peine 20 ans, mais je vais annoncer officiellement ta nomination en tant que second sur ce navire.
Jérémie retient son souffle.
C'est vrai ?
Bien sûr.
Tu connais tous les postes et tu es celui qui voit le mieux à bord après moi. Même si tu manques d'expérience, je pense que tu es le plus qualifié. Qu'en dis-tu ?
Merci beaucoup pour votre confiance, capitaine. Je ne vous décevrai pas.
Jérémie ressort à l'air libre avec la sensation d'être un conquérant. Tel Alexandre le Grand, Guillaume ou encore Napoléon Bonaparte, il vient de remporter une victoire historique. Avec un sourire, il observe les rangées de containers. Il y en avait près de 1000 quand les premiers passagers ont embarqué. Après 30 ans de tempête, de détérioration, il n'en reste qu'un peu plus de 600. Plus des trois quarts sont occupés par des familles.
Les célibataires vivent avec leurs parents ou exceptionnellement dans des quartiers séparés. Compte tenu de l'espérance de vie limitée à bord, du faible taux de fécondité et de natalité des survivants et d'un taux de mortalité infantile très élevé, car tous les nouveau-nés ne sont pas immunisés contre les ravages du mercure, le navire abrite un nombre de personnes stables depuis son appareillage, environ 2000 âmes. Probablement les derniers humains sur Terre. Au début, tous les navires décidèrent de former une flotte et de garder le contact afin de rester unis dans l'adversité et de pouvoir se porter assistance si le besoin s'en faisait sentir.